beginning of a new and excitingly different story.
On est un petit pays, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme dit ton père, trek ta plan. Et on a treké notre plan et on a fait des mouvements qui ont fait que certains mouvements ont influencé la planète.
Belgique, le champ de bataille de l'Europe. C'est là que Napoléon connaîtra la défaite en 1815. Cette bataille de Waterloo deviendra le fondement de l'Europe moderne. Une bataille historique, certes. Mais Napoléon est loin d'être le premier à avoir voulu régner sur le territoire qui deviendra, plus tard, la Belgique. Conquérir l'Europe, il fallait passer par la Belgique. Et pour éviter que les nations soient perpétuellement en guerre, il fallait créer une zone tampon. C'est ainsi qu'en 1830, la Belgique fut créée. Un territoire envahi et conquis tellement souvent que plus personne ne se préoccupait encore de savoir qui était à la tête du pays. Les Belges ont donc continué à faire ce qu'ils avaient toujours fait. Travailler la terre. Travailler dur. Et ensuite, faire la fête.
La kermesse n'avait lieu qu'une fois par an. Alors, tout le monde voulait y aller, les jeunes comme les vieux.
C'était une occasion unique d'aller danser et de rencontrer des filles. Ou des garçons. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre.
Alignés les uns à côté des autres, les chapiteaux étaient tous pleins, remplis de Belges, piétinant, sautillant, dansant et swingant, jusqu'à ce que leurs poches et les fûts soient vides. Jeunes et moins jeunes montaient sur la piste. Ils y rencontrent leur premier amour, leur première cuite, leur première nuit blanche. Le danseur se retrouvait au centre de l'action. Seuls les gens et la fête comptaient.
Il n'y avait pas d'orchestre, juste un orgue mécanique.
On aurait pu utiliser un gramophone, mais dans une salle bondée, jamais on n'aurait entendu la musique. Si on voulait quelque chose capable de jouer suffisamment fort, on n'avait pas le choix. C'était un orgue mécanique.
Pour la première fois, la musique était mécanique.
C'était tellement fiable qu'on pouvait régler sa montre dessus. D'ailleurs, c'est un séquenceur.
Ça, c'est la timbale. Et ça, la batterie. À chaque petit trou correspond une note.
Dix mètres de carton pèsent entre 3 et 4 kilos et ça correspond à une chanson. Les partitions couvrent tous les murs et le nom de la chanson est écrit de chaque côté. On choisit celle qu'on veut et on charge le carton dans la machine.
Moi, je suis carton jockey. Au lieu de mettre des disques, comme l'a dit jockey, je mets des cartons dans l'orgue.
Le tout premier DJ, tournant les cartes perforées dans les années 20. La Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle armée envahit la Belgique. Une fois encore, les véhicules de l'envahisseur traversent les routes du royaume. Du mouvement sous le ciel pluvieux de Belgique. Au lendemain des destructions causées par la guerre, un nouvel espoir vit le jour. Les Belges, plus industriels que jamais, se lancent dans la reconstruction de leur nation. Les routes créent de l'espace pour encore davantage de mouvements.
Le projet actuel prévoit la construction d'un réseau d'environ 1000 km d'autoroutes.
Sur 780 km de routes secondaires, 200 km sont déjà en service ou presque terminés. La réalisation d'infrastructures aussi utiles, personne ne la remet en cause.
Et le long des artères de béton apparaissent de nouveaux bars, des estaminets et même des discothèques.
Ça paraît incroyable, mais il y avait un bar au bord de chaque route.
L'industrie d'après-guerre a offert la prospérité aux Belges. Et cette prospérité a elle-même permis de créer un système de sécurité sociale. Ceux qui avaient travaillé pendant des décennies avaient tout à coup de l'argent à dépenser depuis que l'État avait décidé d'offrir des pensions bien méritées aux retraités.
Une retraite, c'était de l'argent à dépenser. On n'était plus obligé de faire pousser ses salades, on allait les acheter. Et après, si on avait encore des sous, on avait envie de faire des choses. C'est comme ça qu'un nouveau marché s'est ouvert. Comment amener tous ces gens à dépenser leur argent?
Rapidement, la route ne devint plus seulement un moyen de bouger. Elle devenait une destination en soi. Tout le monde voulait participer à la fête.
Il y avait le Guillaume Tell, l'Ange Bleu et beaucoup d'autres. Tous ces bars étaient bondés.
Tout le monde dansait, tournoyait, swingait et valsait.
Je n'en croyais pas mes yeux. Au total, on a dû fabriquer entre 600 et 700 orgues mécaniques pour ces bars routiers. À certains moments, ils jouaient tous en même temps. Toute la nuit jusqu'à l'aube. Je n'en reviens toujours pas. Le robinet du fût de bière était ouvert et on ne le refermait que quand le fût était vide. Ensuite, on apportait un nouveau fût et on ouvrait le robinet. Ils voulaient de la bière, ils en avaient. Je fabriquais des orgues à boire, certainement pas des orgues d'église.
À la même époque, dans une partie du monde moins à la fête, le conflit israélo-palestinien perdurait. Les prix du pétrole montèrent en flèche. Pour atténuer cette soif de pétrole, les pays occidentaux imaginèrent les dimanches sans voiture.
Ça a été le premier coup dur. Interdiction de prendre sa voiture le dimanche.
Et comme si la pression de la crise pétrolière n'avait pas été suffisamment dure pour l'industrie de la fête en Belgique, le gouvernement décida de s'attaquer à un autre problème du pays, sa soif de bière.
Les alcootests ont tué les affaires. Les gens n'osaient plus boire. Comme ils ne buvaient plus, ils n'osaient plus danser. Et comme ils ne dansaient plus, ils n'allaient plus dans les bars à orgue.
Le temps des orgues était révolu. Mais quelques décennies plus tôt, un autre Belge avait ouvert la voie vers un nouveau genre de fête. En 1907, un plastique non inflammable fut mis au point par le chimiste belge Léo Backlande. La bakélite. C'était le tout premier plastique suffisamment malléable que pour lui donner n'importe quelle forme. La bakélite fut le premier composant à être utilisé pour graver des sons enregistrés. C'est donc un Belge qui donnera naissance
au disque.
En 1958, alors que la Belgique construisait les plus grandes boules à facettes du monde, des inventeurs américains perfectionnaient le disque vinyle, donnant naissance au 45 tours, la stéréo 7 pouces.
Je mets doucement.
Avec ce format inédit, un nouveau son conquit peu à peu la vie nocturne belge. La musique soul a traversé l'Atlantique. Le club Ostendais de Groove allait devenir l'endroit privilégié pour expérimenter ces nouveaux sons.
Le Groove avait des disques américains avant tout le monde, et les disques anglais.
Je croyais être pointu en musique, mais en arrivant au Groove, je ne connaissais pas un seul morceau.
C'est ça en fait, le choc de cette musique. On a dit, ouais, c'est quoi ça ici?
T'écoutes la musique là, avec la bouche ouverte, comme ça.
On aurait dit une musique d'un autre monde. C'était complètement nouveau pour nous. À l'époque, on ne connaissait pas grand-chose. J'ai tout de suite été accro. Je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus de choses que ce qu'on trouvait chez nos disquaires locaux.
Le son du groove s'est avéré contagieux. Lentement, une sous-culture d'amoureux de la musique émergea. Tous à la recherche de sons et de rythmes précis. C'est ce qu'on appellera la scène popcorn.
Enfin, quand on dit du popcorn, c'est pas un genre de musique, le popcorn. C'est la boîte qui s'appelait comme ça. Et comme c'était la plus connue, on appelait ça la musique popcorn.
C'était le temple du popcorn, ouais. The temple.
In één club in France.
Toute la Belgique se retrouvait dans cette boîte de Frasneu. Des Wallons, des Flamands, mais aussi des Néerlandais, des Allemands et des Français. Tout le monde allait à Frasneu. Un millier de gens qui se rassemblaient tous les dimanches après-midi au pop-corn.
Frasneu ou Papette, on ne savait pas où ça se trouvait.
C'était dans un petit bled sur le côté, vraiment dans les champs, quoi, vraiment. Je crois que ça nous a pris 2-3 heures pour trouver là où c'était la boîte.
Entre les vaches et les champs de blé, personne n'aurait pu trouver cet endroit. Si ce n'est à nouveau grâce aux routes belges.
Tout le long de la route, on pouvait voir les paysans du coin. Ils s'installaient sur une chaise de camping avec leur thermos de café ou leur boc de bière pour regarder passer les gens qui allaient au pop-corn.
D'habitude, les discothèques commencent à 9h du soir. Le pop-corn commence à 11h du matin. C'est surtout des fiestas de l'après-midi. C'était des beuveries monstrueuses. Et tout le monde buvait à la bouteille.
C'était la mode, il fallait boire du Tubor.
Il y avait des camions de Tubor derrière, avec des montagnes de Tubor, des trucs. Et tout était parti dans un jour. Hein. C'est colossal. 30 degrés, hein, Meneke.
Au popcorn, tout était permis. Bien sûr, les gens se lâchaient aussi ailleurs, mais là, c'était un cran au-dessus.
Le samedi, ils allaient à la pharmacie acheter des médicaments pour faire la fête.
Moi, j'ai carburé longtemps au Captagon, Captagon Heineken. Tu prends une bouteille d'Heineken, tu mets du Captagon, tu secoues et tu bois que sec. Ça donne une pêche d'enfer.
Évidemment, les gens comme il faut n'appréciaient pas.
Il n'y avait pas tellement de filles qui dansaient avec les garçons, c'était les garçons qui dansaient avec les garçons.
C'était impensable dans n'importe quelle autre boîte. Deux garçons qui dansaient ensemble, on les fichait dehors. Au pop-corn, pas de problème. Vous êtes les bienvenus.
Et c'est comme si les gens partageaient un grand secret.
Il y a eu le Groove, il y a eu le Versailles, puis le Popcorn en 71 qui s'est ouvert, et puis il y a eu des boîtes à Anvers, il y a eu des boîtes à Bruxelles. Et c'est ça qui était bien, c'est que ça fait gonfler le public. Et il y a eu un public immense, quoi.
Soul. De la soul, du jazz, du ska, mais aussi du rhythm and blues et du doo-wop.
Broadway.
Il passait même des comédies musicales de Broadway, du cha-cha et de la musique latino.
Avant tout, c'est le rythme, c'est le tempo.
80% des disques ne passaient jamais à la bonne vitesse.
Ralentir la vitesse, ça change la voix. On passe les 45 tours à la vitesse d'un 33 avec le pitch à 8. C'est ça le style popcorn.
Coming home, baby, de Mel Tormé, un classique popcorn. Tous ces disques sont vraiment à part.
Un DJ ne gagnait pas grand-chose. On réinvestissait le moindre centime dans l'achat de nouveaux disques.
Ils expérimentaient énormément avec des chansons que personne ne connaissait.
Il fallait vraiment chercher. C'est à celui qui se bougeait le plus. Donc, moi, j'ai commencé à aller aux États-Unis. En 74, j'allais déjà aux États-Unis.
New York, Philadelphia, Chicago, dans les caves.
Pour essayer de absolument de trouver mieux que ce que l'autre a.
Une immense cave de je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés. Il y avait des millions de disques. Je sais plus, c'est quoi ça ? On ne va jamais savoir. S'en sortir. There was one
place. Je me souviens d'un endroit rempli de palettes. Le propriétaire avait trois chiens qui avaient chié et pissé partout pendant trois ans. Je me revois prenant les disques et raclant la merde qu'il y avait dessus. Oh bon sang. Les Belges faisaient sûrement pareil.
C'était de la musique qui n'intéressait personne aux États-Unis. Ça n'avait aucune valeur. Il n'y avait que ces cinglés de Belges pour acheter ça.
Il me dit, j'ai 75 000 disques, mais plus rien de bien. Pourquoi, vous avez eu d'autres clients ? Des Belges, il y a quelques semaines. Ils m'en ont pris 2 000. Les salauds.
Du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à chercher ces disques, ce qui a fait grimper les prix, malheureusement.
I Think It Over, par Sam Fletcher. C'est un classique, très dur à trouver. En parfait état, il vaut facilement entre 300 et 350 euros, voire plus.
Oh.
Ceux-là ne sont pas les plus chers. Il y en a qui valent 500 ou 600 euros, 1000 euros parfois.
Il y a un moment donné, il y en a qui se sont dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des bootlegs ?
Des copies pirates.
J'ai fait des petits 25 cm, tu vois, des... comme les 78 tours, comme ça. Je mettais deux morceaux d'un côté et deux morceaux de l'autre. Je payais quoi, à ce moment-là, 30 francs belges, je crois, pour faire ça. Ça coûtait rien. Hein. Et moi, je les vendais 2000 francs belges. Et tu gagnais bien ta vie, quoi.
Les esprits les plus entreprenants du royaume ont commencé à se faire de l'argent grâce à la demande croissante des DJ. Partout en Belgique, des magasins d'importation ont commencé à voir le jour. Des magasins qui répondaient exclusivement aux demandes des trendsetters de la vie nocturne du pays.
Il devait y avoir des centaines de disquaires en Belgique.
La Belgique, c'était le pays du disque. Hein. Il y avait le port d'Anvers qui amenait des conteneurs de disques d'Amérique, des cuts comme on dit. Ils ouvraient des conteneurs et ils disaient, voilà, tout est à 5 francs. Tu pouvais aller dans le conteneur, tu prenais tout ce que tu voulais à 5 francs. C'était inimaginable dans les années 70. Ça, c'était fou.
Avec la Belgique, nous on accepte. On est vraiment ouvert à l'importation.
Un disquaire arrivait à vendre entre 10 et 20 exemplaires d'un import. Une centaine tout au plus. En revanche, une reprise de ce morceau partait à 1 million d'exemplaires. Why Can't We Live Together? 1,5 million d'albums.
Il faut aller toujours de l'avant. Je veux dire, si le train passe, il faut monter dessus.
Ça, c'est le train de Moscow Disco qui arrive.
Il y a un groove dans la machine, quoi. Ouais, tiens, si on faisait un titre sur une discothèque, sur un train, ouais, bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, si on la rythmique, si on faisait un train, ouais, super. Bah, on partait. Voilà, séquenceur, claque, on mettait le son, puis un peu plus vite, ok, c'est bon, on était parti avec le tempo, hein, et en avant, et voilà. Et beaucoup de morceaux sont nés comme ça, d'une idée, quoi. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les sons vraiment spécifiques qu'on ne peut pas créer autrement qu'avec un synthé, quoi. Tout doucement est arrivée l'époque du disco. Et c'est là que ça a explosé, quoi. Dans les productions pop de l'époque, tout le monde a voulu donc ajouter un peu de synthétiseur pour suivre un peu l'évolution de la musique. Le son d'ailleurs de Brasilia Carnaval, c'est plein d'oscillateurs avec passant là-dedans pour avoir un son très nid. Moi je programmais le son.
C'est devenu tellement commercial que tout le monde s'est lassé. C'est là qu'est arrivé le punk. Ce son a envahi toute la planète. Il y a eu les Sex Pistols et plein d'autres. Mais on a été les premiers à utiliser des sons électroniques.
Bourdonnement féroce, synthé qui gronde et écho en pagaille.
hurlant à l'apocalypse.
Jean-Michel Jarre, prachtig.
Jean-Michel Jarre, c'est super, mais un peu lisse. Kraftwerk, c'est génial. C'est sombre et parfaitement mathématique. Mais pas assez dur. Il n'y a rien de punk dedans. Pas de rébellion. Ce sont des robots, pas des rebelles. Nous, c'est ce qu'on a inventé. La rébellion par la dance music.
In the dance music.
J'avais vraiment le sentiment très fort que les missiles soviétiques étaient pointés sur nous. Dans les années 1980, l'inquiétude des gens était tangible. La guerre froide était une réalité. Le son de nombreux groupes de l'époque reflétait cette atmosphère crépusculaire.
Le vernis futuriste des décennies passées s'était complètement craquelé. La prospérité du début des années 70 avait été quasiment entièrement consommée.
Ils avaient baptisé les New Wavers, Cold Wavers, Electro Wavers. Mais pour moi, tout était du même noir absolu. La musique sonnait comme ça, sombre, crépusculaire, génial.
Je crois qu'un groupe comme Front 242 n'aurait pas pu être autre chose que belge.
À l'époque, chacun faisait son truc sans se préoccuper des autres. Ça donnait des enchaînements de séquences sèches, discordantes.
Les sons électroniques belges étaient programmés, séquencé, dur et répétitif. En mixant les sons de la New Wave la plus sombre avec d'obscurs morceaux sortis des marges de la musique pop, les clubs ont donné à la Belgique un son incomparable.
C'était particulier et on n'avait pas un nom spécialement pour ça. On disait la musique de T.C. au Carrera ou bien la musique de Jean-Claude au Mirano.
L'ancienne Belgique était le Valhalla d'Anvers. Les gens faisaient la queue jusqu'au coin de la rue. Parfois même des deux côtés du bâtiment. Il y avait deux videurs à la porte. Ils laissaient entrer certaines personnes, mais pas d'autres.
C'était super dur d'y entrer. Rien que ça, ça en faisait un endroit spécial. J'y étais.
Beaucoup de gens voulaient y aller uniquement pour voir si tous les bruits qui couraient étaient vrais.
La baie était mythique parce que ça avait son style vraiment bien, bien spécifique. Il n'y avait aucune autre boîte où tu trouvais ce mélange patchwork, donc t'entendais Oper, t'entendais Max Berlin.
C'était une boîte très avant-gardiste pour l'époque.
Toute la Belgitude. Voilà, tout l'éclectisme de la Belgique. La Belgique était un pays qui cherchait un peu une identité culturelle, et qui, au travers de plusieurs cultures, a réussi à se former sa propre culture, qui est un patchwork de plein de choses.
Je vous mets au défi de passer Bela Lugosi's Dead de Bauhaus en boîte. Il fallait oser.
Ils ont été les premiers à passer du Steve Reich, de Klaus Schulze. C'est plutôt abstrait comme musique.
Le DJ phare du moment, c'était Ronnie, quoi.
D'où j'étais, je voyais toute la piste de danse. À un moment, j'ai demandé à ce qu'on éteigne tout et qu'on allume juste les stroboscopes. Les gens ont tout de suite su qu'il allait se passer quelque chose. Mais quoi ? C'est là que j'ai mis elle et moi.
Elle et moi.
Pendant 7 mois, j'ai cherché « Elle et moi » de Max Berlin. Le disque était introuvable. Alors j'ai économisé, j'ai demandé partout, j'ai 5000 francs, quelqu'un là ? Rien.
J'étais capable de chercher un disque précis pendant 2 ans. Quand je l'avais trouvé, c'était la fête. Au bout d'une semaine, l'aiguille de la platine passait quasiment à travers, tellement je l'avais écouté.
Tous les jours, on écumait les magasins de disques. On fouillait tous les bacs à la recherche des albums les plus rares.
Ça m'occupait parfois pendant 5 ou 6 heures d'affilée. Souvent, quand le propriétaire de la boutique fermait, j'étais obligé de brailler. « Hé, je suis encore là !» À force d'y passer la journée, je faisais partie des meubles.
Les innombrables disquaires de Belgique étaient une mine d'or pour les DJ à la recherche de trésors inconnus.
Dangereuse pour les gens qui sont super cool.
En 1985-86, à Anvers, il y avait une émission très populaire tous les jeudis sur Radio SIS, Liaison Dangereuse.
Je me souviens quand on a lancé l'émission. Les autres stations nous ont pris pour des dingues. Ce n'était pas le genre de musique qu'on pouvait passer à la radio.
Liaison dangereuse, l'émission qui vous fait découvrir à la radio la musique des clubs alternatifs depuis 1983.
On avait envie de faire quelque chose de différent. On en avait marre d'entendre sans arrêt les mêmes groupes comme Depeche Mode et d'autres.
C'était la seule radio qui nous offrait ce qu'on aimait, Radio SIS, le jeudi soir de 20h à 22h. Ensuite, il fallait patienter jusqu'à la semaine d'après.
Nos vieux collègues dépassés des autres stations cherchent à fabriquer des programmes musicaux pour les jeunes. Laissons-les dans leur tour d'ivoire avec leurs chanteurs à succès. Nous, on sait ce que veulent nos jeunes auditeurs. Du fun, de la new beat. New beat is the name. Normalement, on devrait avoir Léo Kant en ligne. Léo ?
Salut.
Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette vague New Beat qui fait fureur en Belgique ?
Eh bien, c'est né du jour au lendemain. C'est des sons nouveaux qu'on a baptisés New Beat.
Pour beaucoup, le premier morceau New Beat est Flesh, du groupe A Split Second.
Passer en 33 tours avec le pitch à plus 8, c'est devenu complètement différent. Les basses étaient plus présentes, on pouvait danser dessus, on entendait tous les sons.
Je sais pas, on l'entend très bien, les basses prennent beaucoup plus de rondeur.
Du coup, les DJ se sont mis à passer leurs disques exprès à la mauvaise vitesse et même les producteurs ont commencé à enregistrer de cette façon.
On a interprété le disque à notre manière, c'est un peu ça.
Les labels indépendants les plus malins ont senti que produire des disques pour la scène avant-gardiste pouvait représenter un nouveau marché. Les sons exclusivement diffusés en boîte ont donc été reconditionnés, réédités et renommés. La New Beat était née.
On a remixé des morceaux dont la version originale n'avait eu aucun succès. On les a ressortis à une vitesse plus lente.
C'est comme ça que la New Beat est née.
Voilà, on ne va pas louper le train, mais on va faire aussi des productions. Et tous nos copains belges, on s'est dit, oui, attends, maintenant, on ne va plus attendre que les Anglais ou les Américains se décident, on va le faire nous-mêmes.
Comme l'élite popcorn l'avait fait auparavant avec la musique soul, la nouvelle génération de DJ belges retourna à ses racines, celle qui consiste à redéfinir l'histoire de la musique.
J'avais noté des trucs. J'essaie de comprendre ce que j'ai bien pu écrire. Ça, c'est le séquenceur. Et ça, le Prophète 3000. Je faisais tout dans ma cave. Programmer la batterie, rentrer les séquences dans l'Atari.
On fait tout à la maison. On va en studio uniquement pour les mixages.
Où est-ce que je vais trouver un échantillon? Je mettais tout par écrit, tellement ma vie était chaotique. Dans le TX-7, un Karimba pour telle piste.
La New Beat, c'est quoi?
Je crois que c'est tout d'abord un son synthétisé, plus vraiment une musique, plutôt une musique, mais engendrée par des ingénieurs du son et plus par des musiciens.
C'est pas dommage, ça?
Ça permet de s'éclater, non?
Et puis il y a le Boccaccio qui a fait exploser cette musique-là. Hein.
Adrien Mousson. Tout le monde voulait y aller. C'était un endroit unique en son genre.
C'était une religion aussi. Les gens allaient exprès le dimanche pour s'imprégner de cette musique-là. Ça n'existait nulle part, seulement en Belgique.
Allez, c'était une sorte de messe de la musique électronique.
Le Boccaccio devint le temple sacré de la New Beat Underground.
Le dimanche, on faisait la queue pendant 3 heures, à 5 heures du matin.
On arrivait parfois à 8 heures du matin et c'était boum, boum, volcan.
Boccaccio. La première fois que je suis allé au Boccaccio, en pleine vogue New Beat, le DJ passait ce morceau. Je suis resté scotché, tellement pris par la musique que je me suis mis à pleurer. Aujourd'hui encore, j'en ai des frissons. On pénétrait dans un film au ralenti. C'était très angoissant. Une ambiance macabre qui vous mettait mal à l'aise.
Le tempo était lancinant, c'était comme une drogue.
On pouvait écouter ça toute la nuit sans se lasser, ni avoir besoin de se défoncer. Le même rythme toute la nuit. Ça avait un effet hallucinogène.
Beat et de la house music. Roulez jeunesse!
Ça m'amuse, moi, ça me défausse là-dessus.
On ne fait plus qu'un. On est en communion avec les autres.
Le Boccaccio était un club super chic. Des jeux de lumière magnifiques.
Une belle piste en verre, avec la cabine du DJ juste au-dessus.
Des miroirs partout. En apparence, la discothèque classique, ce qui rendait l'endroit encore plus étrange. Je m'attendais plus à entendre « I Feel Love » de Donna Summer, moi qui arrivais de New York. En fait, il passait la musique la plus sombre, la plus destructrice que j'avais jamais entendue.
Pour quelqu'un qui n'avait jamais vu de jeu de laser, c'était impressionnant. Le niveau de décibels crevait les plafonds.
Ah oui, ça allait fort. C'était à la limite du supportable.
Later on, it's going to be packed full of 3,000 French, Dutch, and Belgian kids, all going mad.
Il y avait entre 3 et 4 000 personnes sur la piste. C'était absolument génial. Quand le DJ passait un morceau comme I Sit on Acid, on avait la chair de poule. Il y avait une ambiance extraordinaire. Tout le monde dansait comme si c'était la fin du monde.
C'est tous des robots qui dansaient comme des robots. J'ai vu nulle part ailleurs, ni avant ni après. Les gens s'habillaient pour sortir, pour aller dans une boîte New Beat. Ils s'habillaient New Beat.
Pour moi, c'est la mode, c'est les crucifix. Jésus, c'est à la mode. Genre, tu mets tout, t'arranges pour que ce soit pas grave à crever, et puis voilà. Puis t'es bien vu, quoi. Dans des trucs comme ici, quoi. Sinon, tu vas dans des petites villes, autres gardes comme ça. Mais ici, ça va. Il y en a beaucoup.
Il y a eu toute cette mode de se mettre des insignes VW, des sigles Mercedes.
Les smileys, les gadgets, les cheveux jaunes, etc.
Donc on sortait déguisé.
Il fallait bien garer sa Volkswagen si on ne voulait pas se faire piquer le logo. Ça a été un phénomène unique lié à ce mouvement musical.
Être marqué. Tu peux être un plouc et gagner comme maçon. Tu t'habilles en New Beat, tu sors en New Beat, t'es une star. Tous des stars dans la New Beat.
L'extravagance et l'abondance devinrent des échappatoires. Le son électronique unique de la New Beat, son sens de la mode et sa façon de danser offrirent un moyen de fuir cette décennie plombée.
Coup de bol, il y avait un magnétophone à bande au Boccaccio. À 4h du matin, on débarquait avec notre bande, on la chargeait sur le magnéto et on observait le public. S'il ne sautait pas assez haut, on retournait au studio, on remettait des charlets, le volume à fond. Un son moins dur, plus de distorsion.
Et si on changeait la ligne de basse? On faisait ça tout le temps.
À 7h du matin, on retournait au Boccaccio et on demandait à Olivier de repasser la bande. Si tout le monde démarrait au quart de tour, c'était bon. Tiens, Renat, sors-nous un master.
Okay, party people in their house.
applaudit Morton, Sherman et Bellucci.
On a vendu 60 000 exemplaires de Move Your Ass, mais il n'est jamais passé sur aucune radio. C'était des boîtes à rythme. On appuyait sur des boutons, ça ne pouvait pas être de la bonne musique.
Les médias se contrefichaient de nous. En fait, on devrait les remercier. Comme les radios ne passaient pas ces disques, il fallait aller en boîte pour les écouter.
Le mec qui compose un morceau et qui arrive avec un acétate, je parle de mon expérience personnelle, tu le donnes au DJ, il le passe une fois, tu lui laisses, tu retournes trois semaines après, il passe le morceau et qui n'est toujours pas sorti. Et tu vois les premières notes, t'as la foule qui arrive sur la piste de danse et les filles qui commencent à gueuler et tu dis waouh, là j'ai réussi quoi. Waouh, waouh. Un DJ passait 10 fois un morceau sur une soirée, et tu pouvais te dire que c'était bingo. Hein. Les gens qui sortaient dans ces discothèques-là n'écoutaient plus que ce style de musique, ils ne voulaient plus entendre rien d'autre. Quoi.
À l'époque où Madonna avait fait, je crois, c'était la Isla Bonita et tout ça, elle s'était vue détrônée par des groupes. Des groupes New Beat qui venaient de rien du tout.
On vendait des quantités incroyables de disques, entre 10 et 15 000 exemplaires au moins. Idem pour le suivant et celui d'après. Toutes les semaines, c'était comme ça.
Quand je suis arrivé à Bruxelles en 1988, c'était de la folie. Tous les magasins vendaient des t-shirts avec le smiley, l'emblème de la New Beat. Il y en avait partout.
Ce styliste avait développé des t-shirts avec l'effigie de Boma, cette grand-mère belge, donc une image mortuaire sur un t-shirt.
Les grands-mères et les badges et enfin toute la gamme.
Blijkbaar hebben ze nu navolging gekregen op tal van kerkhoven in Vlaanderen en Wallonië verdwijnen deze porseleinen beeldenissen.
Mais les gens ont vraiment cru que le portrait sur le t-shirt avait été volé dans un cimetière. Résultat, tous les jeunes ont fait pareil.
Le pays tout entier était tombé amoureux. Dans le top 10 belge de l'époque, on trouvait 6 ou 7 titres New Beat.
Un magasin de disques qui s'appelait US Import, à Bruxelles et à Anvers, se retrouvait carrément avec des fils un jeudi, jour de sortie des disques, pour où les gens s'arrachaient les disques parce qu'ils voulaient avoir les disques qu'ils avaient entendus au Boccaccio, à la Gaieté, au 55. Ils voulaient absolument ces disques.
Moi, j'étais chez un disquaire un jour par hasard et il y avait le représentant qui arrivait et il avait une valise entière. Il dit « Ah, j'ai quelques productions New Beat ». Et le disquaire a dit « Je prends tout ». C'était la folie, quoi. Les gens achetaient les yeux fermés. Acheter n'importe quoi, et c'est la pochette c'était marqué New Beat, les gens achetaient.
J'ai analysé un peu comment ça fonctionnait. C'est très facile de mettre des éléments ensemble et de les fournir. Et c'est comme ça que j'ai fait la New Beat à la chaîne.
La New Beat était toujours un mouvement underground, mais son succès avait tendance à distendre de plus en plus la définition même du terme.
Beaucoup d'argent circulait. Ce n'était pas la crise.
Ça a été l'âge d'or de la New Beat. On entrait en studio à 20h et à 6h le lendemain matin, il fallait que le single soit fini.
Si en journée la Belgique était plombée dans le gris, ses nuits étaient tout sauf sombres. Les dance floors s'illuminaient avec les lasers, les corps en sueur. Les studios baignaient dans la lumière tremblotante des écrans, animés d'une toute nouvelle créativité.
On a pris 2-3 samples et hop. C'est sûrement pas notre meilleur titre, mais à sa sortie, il s'est vendu à 30 000 exemplaires. Comme ça.
Il fallait aller vite. On savait que ça ne durerait pas. C'était trop incroyable.
J'ai deux ou trois trucs que j'ai faits qui sont des bons trucs. Le reste du temps, c'est du remplissage.
Mais l'hymne commercial de la New Beat était encore à venir.
Un jour que je discutais sur le parking avec le propriétaire du confetti, Peter van der Halen, il me dit, toi qui as tout le matériel, pourquoi tu n'enregistres pas un morceau New Beat ? Je suis rentré chez moi, j'ai branché mes synthés et j'ai commencé à jouer. 3 heures plus tard, je suis retourné au club avec la bande du morceau This is the Sound of Sea.
C'est de là qu'on a commencé à sortir le groupe, on a créé toute une image.
Je voulais donner un visage, une image à la New Beat. Peter travaillait au club comme serveur, et depuis le début, les gens l'avaient remarqué. Tout le monde voulait être servi par lui parce qu'il a un côté déjanté.
La nouvelle sensation New Beat, confetti.
Mais en fait, c'est du playback.
Ça dépend du groupe qui se produit.
C'est un concert visuel en playback. J'insiste sur l'aspect visuel. C'est très important pour moi.
Au plus les confettis cartonnaient dans le grand public, au plus le groupe était vilipendé par les fans de base de la New Beat qui voyaient le signe du début de la commercialisation à grande échelle de leur scène.
Bon, on va au Diamond, ça a le...
Vous avez quelque chose à dire ?
Mais comme c'était du playback, la New Beat, c'est facile de déplacer des groupes.
Le DJ mettait ton disque sur la platine. Tu n'avais besoin que d'un micro. C'était tout simple. On arrivait... On empochait le cachet et on filait au club suivant.
Combien touchent les Erotic Dissidents pour cette prestation ?
40 000 francs.
Ça dure combien de temps ?
20 minutes.
C'était tout artificiel. Il n'y avait pas de talent pur. Le plus grand talent que tu pouvais avoir dans le New Beat, quand tu étais dans un groupe, c'était ta gestuelle. C'était l'attitude que tu avais pour représenter la chanson. Ça me permettait de draguer les filles dans les boîtes de New Beat aussi. Oui, ma petite, je vais te mettre dans mon prochain groupe de New Beat. C'est un bon plan pour draguer.
Il y avait pas mal d'argent à se faire et les autres musiciens le remarquaient.
Un jour, en rentrant d'un séjour de ski, je trouve un tas de messages de Rocco sur mon répondeur.
Je lui ai demandé d'utiliser les machines dont il se servait pour fabriquer ses disques New Beat. Au lieu de... Fais-moi...
Marina, 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 ti voglio più presto sposare.
Je l'ai enregistré en 10 minutes.
Alles opgenomen was.
Dès que c'est passé à la télé, ça fait un tabac.
À la fin, il sortait un single New Beat tous les jours. Et pourtant, ça continuait à se vendre. Ça a explosé.
Même l'enlèvement sinistre de l'ancien Premier ministre fut réduit à un gadget commercial.
Qui m'a enlevé? Mon lodène déchiré, ma pipe. Résultat des courses, je suis resté en chemise et en caleçon.
Un trop plein, trop de tevel et tevel, un trop de tevel, quoi, voilà. Et c'est ça qui a foutu un peu ce marché en l'air, quoi.
Pendant deux ans, la Belgique a dansé au son de la New Beat, et puis tout s'est arrêté.
La New Beat est morte.
C'est vrai?
La New Beat est morte.
Elle ne bouge plus?
Non, la New Beat est morte. Elle est morte.
Tous les mouvements musicaux connaissent des hauts et des bas. Ils évoluent et mutent. La New Beat a commencé à décliner et un autre style a pris son essor.
Des cendres de la New Beat, du savoir et de l'expérience ont cependant été récoltées. Les trendsetters avaient évolué vers quelque chose de nouveau. La New Beat n'avait été qu'une phase, un terrain de jeu infantile pour quelque chose de beaucoup plus important.
Bonsoir. Connaissez-vous l'IPEM ? L'IPEM est un laboratoire de musicologie.
L'Institut de psychoacoustique et de musique électronique est l'une des rares institutions belges de réputation mondiale.
On crée un son, on l'arrange comme on le souhaite, puis on l'utilise dans une composition. Le premier élément est l'onde sinusoïdale, à laquelle on ajoute d'autres sons, des bruits pour la plupart.
Le choix du synthétiseur est essentiel. Ils ne sonnent pas tous bien.
C'était un jeu avec des boîtes et des machines.
Je vais vous montrer l'importance du son dans la musique techno. Ça, c'est nul. Mais si on tourne un bouton...
Le son que ça sortait, c'était dingue.
À quoi sert cette machine? D'ici, j'envoie le son à travers ça. Ensuite, il passe par un filtre et un ampli et ressort là.
Donc, il faut le noise, il faut un white noise, et puis il faut passer par un séquenceur, le filtre, etc.
Il faut brancher le VCO sur le VCF et le VCF sur le VCA. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il y a des émulateurs sur tous les ordinateurs portables. Ok. J'ai trois oscillateurs qui vont se mélanger les uns avec les autres de façon anarchique. Ça donne des motifs rythmiques et sonores qu'on n'aurait pas inventés tout seul.
Vlaamse wonderboys die in het buitenland poen scheppen en wat is de sleutel van hun succes?
De Belgische sound.
Quand on parle du son de la Belgique, généralement on fait pas allusion à Yo-Yo de Plaza. Mais plutôt à des morceaux comme I Sit on Acid de Lords of Acid. C'était une production belge typique.
Ça marchait de plus en plus fort. On se produisait dans des clubs bondés.
même à Tokyo. J'en ai encore la chair de poule.
On oublie trop souvent l'importance de la Belgique dans la musique électronique des années 90.
Mais pas uniquement sur la scène internationale underground. Les producteurs de techno belges changent la face de la musique pop à travers le monde.
C'est là qu'on a commencé à entendre parler de la Belgique.
Personne n'imaginait qu'un courant musical naîtrait dans ce pays d'Europe tellement pas cool. Qu'est-ce qu'ils connaissent à la musique là-bas?
Clairement beaucoup. Les producteurs belges avaient trouvé la formule parfaite pour atteindre le sommet des charts partout dans le monde.
Les Belges avaient nettement plus d'expérience que d'autres dans le domaine de la musique électronique. Ils savaient de quoi ils parlaient. C'est pour cela qu'il y a eu un mouvement techno propre à la Belgique.
On avait peut-être la capacité de faire sortir certains sons et d'employer des sons que les autres n'auraient peut-être pas osé employer. Des trucs bien agressifs. Il y avait certains trucs qui étaient pas mal agressifs, quoi.
On partait d'un son très cool, mais la plupart des morceaux sonnaient comme des marches militaires. Pour beaucoup, c'était une musique trop froide, trop robotique.
C'était un son très agressif. Ça me plaisait parce que, gamin, j'écoutais Led Zeppelin et Black Sabbath. C'était l'équivalent dance de ce genre de truc. C'était génial, très noir. À New York, la techno avait un côté joyeux, gay. Là, c'était plus...
Alors, on a des choses comme Olivia Belos, Quadrophonia. Voilà. Quadrophonia. Ça, c'est un morceau vraiment typique belge qui a vraiment ce son belge dans la hausse. Avec un breakbeat anglais, quelque chose d'un peu new wave dedans, il y a un mélange de tout, quoi. On entend le côté melting pot et puis ce côté orchestral typique.
Tout le monde cherche à sortir l'album le plus dur possible. Tout le monde a les yeux braqués sur la Belgique. Dès qu'un single belge sort, deux semaines plus tard, quelqu'un en Angleterre sort la même chose. Tous les DJ passent leur disque. C'est une influence majeure.
Le son des raves au Royaume-Uni était très fortement inspiré des riffs des productions belges. J'étais capable de les reconnaître à l'oreille quand ça passait chez un disquaire. Ça, c'est belge.
Le tempo 4/4 est typique de la techno hardcore belge.
La puissance d'une seule mesure, d'un seul riff, voilà ce qui caractérise la techno hardcore. Par exemple, Anastasia de T99. Ce mouvement a complètement explosé au Japon.
C'est vrai que T99 ou Quadrophonia, c'était... ça stoppait tout d'un coup, il y avait un truc qui pétait. C'était assez... Que les autres n'osaient pas.
Plus le son était lourd, mieux c'était. Il fallait que ça te morde, que ça t'accroche.
que tu planes sans être défoncé.
C'est dur à faire comprendre aux jeunes, mais à l'époque, cette musique a fait scandale. Vous n'imaginez pas. C'était une nouvelle page qui se tournait.
J'ai écouté des disques produits par RNS. Il n'y avait rien acheté. Alors je leur ai envoyé quelques morceaux. J'avais déjà produit des trucs à New York, mais en Europe, c'était de la folie.
J'ai toujours considéré Energy Flash comme de la techno belge.
Puis il a fait Mentasum. Sors-le tout de suite. Tu es sûr? Certain, envoie-le-moi, sinon je viens le chercher.
Je lui ai envoyé le seul exemplaire existant. Si le courrier s'était perdu ou que la bande avait été abîmée, on n'aurait jamais pu recréer ce morceau. C'était fichu.
Renat avait un talent inné pour mettre les gens en contact, pour associer les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment.
RNS est le label.
Je voulais surprendre, sortir des morceaux qui ne sonnaient pas comme tout le reste. Faites votre truc. Je ne m'en mêlerai pas. Même si ça ne me plaît pas, je ne dirai rien. Le studio était chez lui, dans son minuscule appartement à Gand. Il faisait 20 mètres carrés. Un mètre carré pour vivre, le reste, c'était le studio. Je n'ai jamais vraiment su ce que je faisais, c'est tout ce que je peux dire. J'étais un gamin passionné par les machines et par cette musique. Je tripatouillais les boutons. Ça sonne bien, on l'enregistre. Quand on rentrait du cinéma le soir, on enjambait les sacs de couchage. Pendant des années, on n'a eu aucune intimité. Renat avait 36 ou 37 ans à l'époque. Il était à peine plus jeune que moi aujourd'hui. Je serais incapable d'imaginer mon appartement envahi en permanence par des jeunes qui trafiquent des bruits bizarres. Je deviendrais dingue. C'est fou ce qu'il a supporté par amour de la musique.
On a eu la chance immense d'être les premiers. Rien de tel n'avait jamais été fait, tout était possible. Tout était complètement nouveau.
Dès que je passais un disque Banzai, c'était de la folie.
Ce morceau est pour mon ami, Monsieur Robert Armani.
Si on a envie de faire la fête, vraiment, on vient en Belgique.
Discothèque, dancing, club, peu importe comment on les appelle, il y en avait partout à travers le pays. Une fois encore, les routes de béton devinrent les lieux privilégiés de la vie nocturne. Ecstasy.
vraiment la route des discothèques. Et toutes ces discothèques, en fait, à un moment, elles sont tous mis à jouer ce style.
C'est en Belgique qu'est né le mégaclub.
En het is meer dan een manier van uitgaan. Het is een jeugdcultuur met duizenden aanhangers, een subcultuur met eigen codes en gedragingen die door de buitenwereld zelden worden begrepen.
It's party time!
Il y avait tout un groupe qui était quand même assez conséquent, qui vraiment ne vivait dans leur voiture, se lavait dans les pompes à essence parce que il y a des douches. Et camper sur les parkings. Et ils se suivaient en file pour aller d'une discothèque à l'autre.
Et ils se tapaient parfois 1000 km sur un week-end, hein, pour aller d'une discothèque à l'autre. Hein, parce que tu avais une discothèque qui ouvrait jusqu'à une certaine heure. Et puis il fallait aller à l'autre discothèque.
En Belgique, on sortait le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. C'était sans équivalent ailleurs. Je me souviens, on allait en boîte le jeudi soir, on faisait la fête jusqu'au petit jour, et puis on partait dans une autre boîte, tu vois le genre. C'était non-stop.
Les gens qui partaient parfois le vendredi soir, ils rentraient le mardi matin sans avoir dormi, quoi.
Et puis déjà, à partir du mercredi, ça recommençait avec d'autres établissements qui étaient situés à Bruxelles, à Anvers, à Gand... ou ailleurs.
Les gens dormaient le mercredi, donc il y avait le club, l'after club.
On passait d'une boîte à l'autre.
L'after club de l'after club, le club, et puis... Une chose qu'on a trouvée qu'en Belgique, quoi.
Dat komt vooral doordat België geen wettelijk verplicht sluitingsuur kent.
Moi, je fermais quand il y avait plus de monde. J'avais pas d'horaire, en fait.
Où est-ce que vous venez maintenant ?
Arras, en France.
À Francfort, on a entendu parler de cette fête.
Il y a une teuf d'enfer ce soir.
Tu regardais les plaques ? Français, hollandais, anglais.
Les gens venaient de l'Europe tout entière, pas seulement de Belgique.
Tout le monde était là, à la fin, style extrême et tout, les gens étaient là pour la musique.
Tout simplement, ils entendaient chez nous une musique qu'ils n'entendaient nulle part ailleurs.
La musique électronique a rassemblé les gens. C'était une communion.
Comment expliquer ça ? Ça serait peut-être pas un bon truc. C'est que ce mouvement-là, il n'y a pas de différence. Ça a rapproché tout le monde, quoi. Voilà.
Il y avait un côté hippie dans la mesure où on était convaincu qu'on allait changer le monde. C'était l'avènement d'une jeunesse nouvelle. Je ne plaisante pas, j'y croyais vraiment. Cette génération allait changer la planète. Évidemment, c'était à cause de l'ecstasy, mais je ne l'avais pas compris. C'était tout simplement à cause de ça.
Ecstasy, ecstasy. Faut pas avoir peur de ne pas parler de toutes ces substances, quoi.
Les amphétamines stimulent le système nerveux. Elles ont un effet excitant, mais surtout, elles abolissent la sensation de fatigue.
Bon, l'ecstasy, ça donnait une espèce d'euphorie, et cette musique-là donnait de l'euphorie aussi. Donc, ça se mélangeait bien. Ça se mélangeait bien, au départ.
Et puis une chaîne commerciale a fait un reportage sur l'ecstasy.
Dance temples, drug temples.
J'étais DJ au café d'Anvers quand on a vu arriver des gens qui n'étaient jamais venus danser. Mais ils avaient entendu parler de drogue à la télé et voulaient savoir où se procurer de l'ecstasy.
Echte bewijzen voor een verband tussen ecstasy en auto-ongevallen zijn er niet. Wel staat vast dat er haast elk weekend verkeersongevallen gebeuren, waarvoor niet meteen een oorzaak kan worden aangeduid.
Nous avons été envahis par la démocratisation de la drogue.
Dit is MDMA.
Ça, c'est des comprimés de MDMA, de l'ecstasy.
Rond 150.
J'en vends en moyenne entre 150 et 300. À 20 euros le cacheton.
Vous mettiez un dealer dehors, il y avait un autre qui arrivait, donc c'était vraiment... C'était pas facile de gérer, c'était sans fin.
Ouders reageren in paniek, plaatselijke autoriteiten laten house-discotheken sluiten, de Rijkswacht houdt razzia's.
On était le diable.
Als dit verder gaat in de
si ça continue comme ça, on envisagera de fermer le Boccaccio.
Uiteraard een Boccaccio hier liever weg.
On rouvre la semaine prochaine.
Je préférerais que la boîte aille s'installer à Paris.
Ook andere discotheken worden door de Rijkswacht in de gaten gehouden.
À De Villa, quand elle s'est installée à Bruxelles, à Askobegem, ça a été un succès fulgurant directement.
Atteinte à l'ordre public.
Le bourgmestre, évidemment, a tout fait et a d'ailleurs réussi pour nous fermer. Ils étaient 150 policiers à se mettre autour de la discothèque. Ils sont venus à 8 heures du matin. C'était bourré de monde. Ils se sont donné la main et ils ont entouré la discothèque. Et par rapport à tout ce ramdam, ils n'ont retrouvé mais quasi rien.
Op het eerste gezicht weinig spectaculair. Een mes en iets wat lijkt op een snoeischaar.
C'est de la sensation, c'est plus de l'information.
Toutes les semaines dans le journal, on apprenait qu'une autre boîte avait fait l'objet d'une descente.
De Boccaccio zaterdag is vandaag de Gentbrugse dancing Balmoral uitgekampt.
Vanmiddag verzegelde de politie van Stabroek de megadancing Globe.
Eind oktober besluit de burgemeester van Lokeren om de Cherry Moon, een van de meest succesrijke megadancings in Oost-Vlaanderen, te sluiten.
Precies drie maanden geleden liet burgemeester Vins van Afflegem Dancing Extreme in deelgemeente Essenen sluiten.
Toutes les razzias se sont suivies l'une après l'autre, en fait, en deux années de temps, je dirais deux, trois années de temps.
Van de 10 megadancings waar in hoofdzaak housemuziek wordt gedraaid, zijn er al 7 verplicht dichtgegaan. En dat op amper 6 weken tijd.
Boccaccio toe, Balmoral toe, Jerry's toe in Dies destijds. Waar moeten we nog naartoe?
Vandaag werd het gebouw met de grond gelijk gemaakt. Er zijn plannen om op deze plaats een fastfood restaurant neer te poten.
Voor mij is dat wat... C'est une atteinte aux libertés. Mais pourquoi le dimanche on se fait toujours chier? Pourquoi le dimanche on pourrait pas aller en discothèque? On n'a pas tous envie de se promener dans les bois ou aller faire du shopping le dimanche. On peut aussi avoir envie le dimanche d'aller boire un verre et de faire la fête.
Simplement faire la fête, célébrer la vie. Cela fait partie de la nature même du Belge. Mais pour reprendre le contrôle sur une population qui avait tendance à créer ses propres règles, les autorités se sont senties obligées de bâillonner un mouvement à son apogée.
C'était vraiment 85 à 95. Pour moi, ça c'était vraiment... tout le monde nous regardait, quoi.
La meilleure techno était Made in Belgium. Produite par des Belges et distribuée par des maisons de disques belges.
Ouais, c'était... Pas dire la belle époque parce que ça fait ancien combattant, mais... Il y a eu des mouvements en Belgique qui étaient très intéressants. Maintenant, c'est un peu noyé.
Avant, il y avait de la recherche. Il y avait beaucoup de recherche. Et après, ils se sont vraiment installés sur leur position. Ah ouais, on est les meilleurs, et voilà. Et on s'est bien fait dépasser.
Un peuple mis sous silence, divisé et paumé. Jusqu'à ce que l'inventivité et le génie belge renaissent à nouveau.